Vous pouvez prendre place. Merci donc pour votre compréhension par rapport à toutes ces situations et ces aménagements que vous comprenez qui sont pour le bien de tous. Ce matin, je voudrais méditer un extrait d'un psaume qui est pas, ce choix n'est pas dicté par la situation, mais peut-être qu'il va nous aider aussi à vivre cette situation dans laquelle nous sommes d'une façon positive. Et même si cette parole dépasse le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce psaume, c'est le psaume 84, verset 6. Alors, je le prends en cours de route, ce psaume, parce que je voudrais centrer notre attention sur ces versets 6 et 7. « Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources ou en une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. » J'aime beaucoup les psaumes parce qu'ils nous introduisent dans l'intimité d'hommes et de femmes ordinaires qui connaissent la présence de Dieu et qui, au sein de leurs situations diverses, parfois de joie, parfois d'épreuves, souvent d'ailleurs des preuves, et parfois même des preuves extrêmes, trouvent en Dieu un secours. Ils trouvent une issue, ils trouvent une paix, ils trouvent une force pour traverser les situations qu'ils affrontent. Et ainsi, ces psaumes, qui sont des livres de prières et de louanges, nous permettent d'entrer dans cette intimité de leurs auteurs avec Dieu. Et on peut s'identifier à ce qu'ils vivent, on peut s'identifier à leur parcours et recevoir, apprendre de leur vie et de leur communion avec Dieu. Ici, ce texte nous parle de cette force qu'on trouve dans la relation avec Dieu, les uns et les autres, quels que soient nos contextes de vie, quels que soient nos défis. Et c'est une force qui n'est pas simplement une force qui nous permet de traverser les difficultés, c'est une force qui nous permet de transformer les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Alors ça, transformer les circonstances, c'est le rêve de tout le monde. Changer le monde, c'est le rêve de tout le monde, plus ou moins. On aimerait tellement que... Mais ici, ce que j'aime, c'est qu'on trouve non seulement la réponse à ce souhait, mais en plus, on trouve le chemin pour y parvenir. Et on voit comment la présence de Dieu dans nos vies est capable de transformer, nous amène à transformer l'univers dans lequel nous nous trouvons. L'univers intérieur, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos craintes, mais aussi l'univers extérieur, puisque là, il s'agit de cette traversée de la vallée de Baca. Alors, dans vos traductions, vous l'avez certainement déjà remarqué, il s'agit de la vallée des pleurs, le lieu de la souffrance, le lieu de la solitude, le lieu de l'échec. Quand on traverse la vallée de Baca, ou vallée des pleurs, alors, eh bien, cette capacité de relation avec Dieu permet à ceux qui se tournent vers Dieu de transformer ce lieu de souffrance, d'échec, de pleurs, en un lieu plein de sources. Le désert, et c'est une image courante dans l'Écriture, le désert se transforme en source d'eau et la pluie la couvre de bénédictions. Alors c'est ce qu'on voudrait vivre tous, hein, chacun, dans nos déserts respectifs, quels qu'ils soient. Hein, on sait ce que c'est que des temps difficiles, chacun a ses moments parfois difficiles à vivre et à affronter, et on aimerait vraiment trouver le chemin pour que ces lieux-là soient transformés en lieux de source. L'oasis dans le désert, c'est le lieu où on peut se reposer, se rafraîchir, retrouver des forces pour continuer la marche. Alors, mon but ce matin, c'est de méditer et de tirer de ces textes quelques principes pour nos vies, pour que précisément, eh bien, nos déserts deviennent des sources d'eau, nos vallées de pleurs, éventuellement, si nous les y sommes confrontés, deviennent des lieux pleins de sources. D'abord, je suis touché par le constat de ce texte. Première chose que je voudrais souligner, et qui est le constat de nos vies, mais qu'on trouve aussi dans tellement d'autres textes de l'Écriture, c'est que la vallée des pleurs, elle est aussi pour les croyants. Elle est aussi pour ceux qui marchent avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont on est épargné. Ce ne sont pas des réalités qui nous échappent, qui nous deviennent étrangères parce qu'on vivrait dans un autre monde. Et je voudrais dire à ceux ici qui peut-être découvrent la foi ou même aux croyants qui marchent avec Dieu depuis longtemps, que traverser la vallée des pleurs, ce n'est pas une exception, ce n'est pas quelque chose qui, c'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel pour tel ou tel, parce qu'il serait moins aimé de Dieu ou moins l'objet de l'attention de Dieu. Ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. C'est une réalité qu'il nous faut confronter, qu'il nous faut accepter, dans l'espoir que Dieu la transforme. Mais beaucoup de nos troubles, beaucoup de nos mal-être en tant que croyants, consiste parfois à nous poser les mauvaises questions. Pourquoi ? Pourquoi telle épreuve ? Pourquoi la difficulté ? Parce qu'il y a plein de choses qui nous surprennent dans notre vie, dont on ne penserait pas qu'elles seraient notre partage, notre héritage. Et du coup, ça crée un malaise. Et plutôt que de les affronter victorieusement, les questions, les pourquoi, les remises en question nous rajoutent encore à la souffrance, rajoutent à l'incompréhension. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui n'est pas croyant, mais qui est en recherche et qui se posait la question que tout le monde se pose finalement. Mais alors, si Dieu existe, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tant de mal ? Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi tant de difficultés ? Pourquoi tant de drames ? Cette question, elle est naturelle, elle est spontanée, mais plutôt que de la garder comme un obstacle dans la marche avec Dieu, on va l'écarter pour admettre que le temps dans lequel nous vivons, en ce moment, pas dans cette heure, si j'en précise, mais dans ce temps terrestre que nous traversons, ça fait partie de la réalité. Ça fait partie d'une réalité que Dieu veut nous amener à transformer, mais que nous confrontons régulièrement, et ça, c'est juste. C'est fait partie des choses qui sont normales. Alors, pourtant, les chrétiens se disent, mais oui, il y a tellement de promesses dans l'Écriture qui nous feraient croire que les épreuves nous seraient évitées. Et je prends par exemple le texte du psaume 91, hein, qu'on aime bien, et qui aujourd'hui revient sur les réseaux sociaux. Les chrétiens disent, oui, pourtant, la Bible dit bien, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Voilà, c'est tout, la lecture s'arrête là. Alors on est heurté, ces textes viennent contredire ce que je viens de dire maintenant. Et le premier texte qui nous parle, si on les met en opposition, d'un côté il est dit « lorsqu'il traverse la vallée des pleurs ». Ah. Donc ça veut dire que ça fait partie du chemin. Et ce texte-là dit « aucun malheur ne t'arrivera ». Donc on se dit « mais du coup c'est… est-ce qu'il y a une contradiction ? » Dans ces moments où on entend parfois des croyants dire que c'est pas normal de supprimer des cultes, c'est pas normal de prendre des précautions, parce que justement on est dans la victoire, on est dans l'assurance que aucun fléau ne peut nous arriver. Et pourtant, on voit bien que des chrétiens sont contaminés. Qui aurait pu penser que dans une église qui rassemble 2000 croyants pendant une semaine de jeûne et de prière, le virus puisse s'infiltrer? Ça nous heurte, ça, n'est-ce pas? Ça choque. Une église qui est habituée à prier pour les malades, à voir des miracles. Donc, ce n'est pas un milieu favorable pour la maladie. C'est un milieu duquel la maladie est chassée par la guérison, par la prière. Et pourtant, voilà ce qui se passe. Alors, on dit, mais du coup, est-ce qu'il y a contradiction, est-ce que Dieu aurait détourné son regard ? Non, ça fait partie des réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et auxquelles nous devons faire face. Non pas en nous posant des questions en disant mais pourquoi et comment ? Maintenant, comment est-ce qu'on va traverser ces difficultés-là ? Et concernant ce texte-là, je lisais un commentaire cette semaine qui rappelait que, en fait, dans le Nouveau Testament, ce texte est cité. Ça ne va pas vous faire plaisir, ça, mais c'est la réalité, il est cité par le diable. La seule fois où ce texte est cité dans le Nouveau Testament, c'est par le diable. Il est cité à qui ? À Jésus. Quand le diable est tenté, quand le diable vient tenter Jésus, il lui dit, mais alors, jette-toi de cette montagne, puisqu'il est dit qu'aucun fléau ne t'arrivera, que les anges te porteront sur la main. Et que fait Jésus ? Est-ce que du coup, il saute ? Eh bien non. Manque deux fois Jésus, hein, franchement, là. Il n'est pas à la hauteur, je trouve. Hein. Je trouve qu'il est un peu... il est en dessous. Il aurait pu montrer que cette parole était vraie. Non, pas du tout. Et j'aime cette attitude du Seigneur qui répond au diable, venu le tenter. Justement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, le diable refuse, non, le Seigneur refuse, excusez-moi, de provoquer Dieu en l'amenant à satisfaire un besoin de protection et en le mettant dans une situation qui n'était pas juste, mais dans laquelle il utiliserait la force, la puissance de Dieu pour son bien. Donc ça nous fait réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation dans laquelle nous sommes l'objet d'une protection réelle, évidemment. Et pour autant, en même temps, la foi, ça n'est pas le sentiment de toute puissance que rien ne peut nous arriver parce que, justement, on est dans la main de Dieu. Aucun fléau ne t'arrivera, aucun mal ne peut t'atteindre. Jésus a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Ça veut dire qu'aucune destruction absolue, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Dans les situations que nous connaissons, et on cite souvent, alors voilà le texte que je viens d'évoquer, Matthieu 4, versets 6 et 7, mais notre position, c'est tout à l'heure ça. C'est important, ça me fait penser que ce texte-là que vous venez d'apercevoir et qu'on va méditer, ça me fait penser à la façon dont parfois on évangélise. On parle de la foi. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Viens à Jésus, tes problèmes seront résolus. Il est la réponse au problème. C'est vrai. C'est vrai, sauf que c'est pas faux de dire ça, mais on crée l'idée que du coup, il n'y aura plus de problème. Et on fait de la vie avec Dieu une espèce de fantasme d'une vie dans laquelle on est épargné de tout mal. Et avec ça, on ne favorise pas justement la maturité des croyants. Les gens se convertissent en pensant que tous les problèmes vont disparaître. Et finalement, les problèmes subsistent, non pas de la même façon, avec un chemin de guérison, avec un chemin de délivrance, avec un chemin de foi pour les traverser et les surmonter. Mais pour autant, eh bien, on est confronté. Il y a tellement de malheurs qu'on aurait voulu éviter les uns et les autres, n'est-ce pas ? Dans nos familles, des deuils, des souffrances, tellement de choses qu'on aurait aimé ne pas vivre. Et pourtant, eh bien, elles ont été permises. Et à travers ces moments-là, quelque chose s'est passé au niveau de la maturité de la foi, au niveau de la purification de la foi, au niveau de la croissance dans l'assurance aussi au sein de l'épreuve. L'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis aussi de la compassion. De la compassion pour ceux qui passent par les mêmes chemins et par les mêmes vallées des pleurs. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très beau. Quand l'Écriture nous dit pourquoi certaines épreuves sont permises, l'une des raisons, c'est que dans les épreuves, nous découvrons des aspects de la nature de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa proximité, que nous ne connaîtrions pas si nous ne passions pas par des moments difficiles. Et Dieu transforme donc du coup ces épreuves en oasis. Puisqu'au lieu d'être destructrices de la foi, au lieu d'être des épreuves qui nous arrêtent, elles nous font rebondir, elles nous font grandir et nous approfondissent dans la marche avec Dieu. Le texte qui vient à la suite, c'est illustre cela. C'est-à-dire, quand l'Évangile tombe dans une terre, celle de nos cœurs, où justement il n'y a pas beaucoup des endroits, c'est un endroit pierreux, sans beaucoup de terre, sans beaucoup de profondeur. Alors elle va lever aussitôt. Quand on dit aux gens « venez à Jésus, il n'y aura plus de problème », ça suscite l'enthousiasme. Ça peut même susciter des réponses à l'appel. Mais ce qui va faire la différence, c'est la profondeur de la terre. Et Jésus explique que quand sa parole ne trouve pas un sol profond, alors quand le soleil paraît, elle est brûlée, la semence est brûlée, elle sèche faute de racines. C'est l'explication qu'il donne. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, veillons à ce que nos cœurs ne soient pas des cœurs sans profondeur. et que des questions qui sont en fait des questions d'immaturité, d'intérêt personnel, parfois d'égoïsme, ne viennent pas apporter, mettre en cause la puissance de la semence dans nos propres vies. La promesse de Dieu, c'est qu'au sein de l'épreuve, au sein de tout cela, dans toutes ces choses que l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 37, a énumérées, la persécution, le dénuement, la faim, dans toutes ces choses, une sécurité, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aime souvent souligner que c'est dans tout ça. Ce n'est pas en dehors, ce n'est pas au-delà, ce n'est même pas après, c'est au sein de toutes ces choses que le psalmiste décrit comme étant la vallée des pleurs. Au sein de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, et puis vous connaissez la suite. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça notre sécurité. C'est ça la promesse fondamentale. Ce n'est pas que l'épreuve ne sera pas notre partage, c'est que même au sein de l'épreuve, l'amour de Dieu, sa proximité, sa présence sera toujours une réalité dans nos vies. Alors, c'est ce constat que l'on fait. Heureux les hommes dont la force est en toi, quand ils traversent la vallée de Baca, des pleurs, alors ils la transforment en oasis. Quand ils traversent, je m'arrêtais sur ce premier constat, lorsqu'ils traversent cette vallée, ben oui, c'est une réalité. Et je pense que beaucoup d'entre nous, parfois, on a besoin de prendre conscience de cela et de l'admettre, non pas comme une fatalité, non pas pour nous résigner, mais pour ne pas se poser des questions qui, finalement, vont nous désarmer face à l'épreuve, qui vont nous rendre sans force parce que ces questions-là vont encore affaiblir notre foi. Et en plus, ce que je trouve magnifique dans les épreuves que nous avons pu traverser les uns ou les autres, c'est la proximité, c'est la compassion que Dieu met dans nos cœurs pour ceux qui traversent les mêmes chemins, qui traversent les mêmes difficultés. Comment pouvons-nous témoigner si les personnes à qui nous parlons ne peuvent pas s'identifier à ce que nous connaissons, à ce que nous vivons? Alors, on ne va pas connaître toutes les épreuves de tout le monde, ce n'est pas ça. Mais n'empêche que les chemins par lesquels nous passons sont des façons sont des points de connexion avec ceux qui passent par ces mêmes chemins, pour qu'ils voient que dans ces choses-là, on a trouvé une issue, on a trouvé un secours, on a trouvé une ressource en Dieu. Ça, c'était le constat. Deuxième... Alors ça, c'est un verset qui m'a frappé cette semaine dans le même sens. Je ne vais pas en rajouter trop sur les épreuves, mais quand même. Vous savez, quand Dieu envoie Moïse libérer son peuple, et quand il lui promet de le délivrer de l'esclavage, la réaction immédiate de Pharaon, c'est de redoubler l'asservissement du peuple. C'est de renforcer encore sa tyrannie. Et dans ce moment où le peuple est sur le point d'être libéré de l'Égypte, alors c'est l'inverse qui se passe. La pression de Pharaon augmente. On rajoute du travail. À un moment donné, ces gens vont dire à Moïse, pourquoi nous parles-tu de délivrance ? En fait, c'est le contraire qui se passe. Et Dieu explique cela. Il dit, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Ah. C'est-à-dire que quand l'épreuve s'accentue au lieu de diminuer, on a le choix entre baisser les bras en disant, finalement, ou dire, Seigneur, ta délivrance approche. Et plus les choses vont dans l'extrême, plus la gloire de Dieu, quand il intervient, peut se manifester. Dieu ne prend pas plaisir à ce que son peuple vive dans un redoublement de souffrance. Mais il en donne le sens. Il dit, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et deuxième raison, pour que tu racontes à ton fils et aux fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça n'est pas parce que la pression s'intensifie, parce que l'épreuve devient plus difficile, que Dieu se retire. Et ce n'est certainement pas le moment de baisser les bras, mais c'est le moment de garder ses yeux sur le Seigneur, parce que sa gloire sera d'autant plus éclatante et d'autant plus manifeste, et le témoignage qu'on pourra transmettre à ceux qui nous entourent et à notre postérité sera encore plus fort, parce qu'il y aura le signe de l'intervention miraculeuse de Dieu. Alors ça, c'est le premier constat. Je m'y suis arrêté un peu longuement. On n'aime pas trop parler de ces choses-là, mais bon, voilà. Je pense que ce n'est pas inutile. Juste un exemple personnel. Un jour, on parle d'épidémie, et on se trouvait aux Antilles, quand il y avait cette recrudescence de... C'était pas vraiment une épidémie, mais en tout cas de chikungunya. Et j'ai attrapé le chikungunya. Alors que je venais de servir Dieu pendant une semaine, d'enseigner, de vivre des temps forts avec tout le monde. Et puis, voilà, dans le moment, je ne sais pas quel moment d'ailleurs, mais j'ai... Et c'était étonnant parce que j'ai croisé quelqu'un à ce moment-là qui, lui, se faisait une fierté de ne pas avoir été atteint du chikungunya. Parce qu'il me laissait entendre que, du coup, il était un bon témoignage, lui, pour sa famille. Vous vous rendez compte, je me dis, si moi j'ai attrapé le chikungunya, comment est-ce que ma famille croirait que... Sous-entendu, pasteur, tu as manqué de foi, toi, tu t'es fait avoir. C'était gentil, enfin gentil. Je l'ai pris pour quelque chose de gentil, c'était un peu quand même accusateur. Mais vous voyez, cette idée que parce qu'on est chrétien, rien ne peut nous arriver, tant mieux si rien n'arrive. Mais c'est faux, ce n'est pas une réalité. Et les motivations qui sont derrière ne sont pas justes. C'est dans toutes ces choses que Dieu veut nous montrer sa gloire. Alors, avançons dans la vallée de Baca parce qu'il y a une issue. Le deuxième enseignement que je vois de ce texte, c'est la clé. Comment est-ce qu'on transforme une vallée des pleurs en une oasis? Et la clé, ici, c'est « Heureux les hommes dont la force est en toi ». Alors, le mot « force », c'est un mot... C'est une réalité qui est difficile parfois à définir parce qu'il y a des fois où on se sent fort, à la limite de la toute-puissance, et rien ne peut nous arriver, et des moments où on se sent faible. On se dit, mais alors, c'est quoi cette force qui doit nous animer? Quelle est son origine? Comment la recevoir? Comment la libérer? J'aime l'apôtre Paul quand il parle, quand il nous donne une compréhension de la force qui agit en nous. Il ne parle pas de la force qui est de l'assurance en nous-mêmes. Des fois, on se lève plein d'assurance, hein, parce qu'on a bien dormi, parce que la journée s'annonce bien. Bon. Cette force peut venir de Dieu. Elle peut venir aussi de notre confiance en nous-mêmes. Elle peut venir du fait que tout s'annonce bien, que le soleil brille. En ce moment, on en aurait bien besoin. Et donc, il y a un sentiment de force qui est très subjectif, en fait. Et il faut faire attention. C'est quoi cette force qui doit nous animer ? La Bible nous invite ici, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, cette force, ce n'est pas un sentiment émotionnel seulement. C'est une force qui trouve sa racine, son origine dans la communion avec Dieu. Heureux les hommes dont la force est en toi. Et la question qui se pose pour nous, c'est en quoi est-ce que je puise ma force? Est-ce qu'elle est en moi? Est-ce que dans les circonstances? Ou est-ce qu'elle est en Dieu lui-même? Et quand nous puisons notre force en Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes intérieurement dans un sentiment de force. Il y a des fois, on prie pour une situation et on est sûr, alors je vais faire un aveu, parfois on prie pour des situations de maladie et on est dans une foi à déplacer les montagnes. Et puis, rien ne se passe nécessairement. Et d'autres fois, où on prie en étant intérieurement dans la plus grande des faiblesses, on n'ose même pas croire que Dieu va répondre, parce que ça nous arrive aussi, ça, hein, les uns aux autres, eh bien, Dieu répond. Dieu répond. Alors, ce n'est pas le sentiment que l'on a de la force qui nous anime que dépend l'exaucement ou l'issue. Parfois même, on peut être dans une attitude de grande faiblesse intérieure, et pourtant, cette faiblesse-là, elle est synonyme de force, parce qu'elle nous oblige à la dépendance de Dieu et à la communion avec Dieu. C'est ce que Paul explique, hein. Quand on pense qu'un chrétien ne peut pas avoir de difficultés, parce que il faut se tourner vers Paul, hein, qui parle de cette écharde dans la chair qui le poursuit. On a fait toutes sortes d'explications là-dessus. quelle que soit la nature de cette écharde. Il dit, trois fois j'ai prié pour que le Seigneur m'en délivre. Et ça, la réponse de Dieu, ça n'a pas été la guérison. Ou en tout cas, l'exaucement. Parce que cette écharde n'était pas nécessairement une maladie physique, ça pouvait être une situation qui était compliquée pour lui. Mais Dieu a répondu quand même. Dieu ne répond pas toujours ce qu'on attend qu'il réponde, mais il répond. Et sa réponse est de dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul, au lieu de subir cette écharde, de manière négative, mais résignée, « Ben oui, non !» Il rebondit en disant « Alors, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions. Ce n'était pas quelqu'un de dépressif pour autant. Hein. Mais il savait qu'au sein des difficultés qu'il traversait, qui le rendaient faible, qui le maintenaient dans la faiblesse en lui-même, alors, dans cette situation-là, quand il était faible, il dit « C'est alors que je suis fort. » Ce matin, cette force qui va nous amener à changer les situations, elle ne se mesure pas à notre enthousiasme, elle ne se mesure pas à la force de notre voix, elle ne se mesure pas à notre assurance en nous-mêmes, à nos émotions, elle se mesure à notre dépendance de Dieu. Et on peut trembler devant une situation, on peut trembler devant un défi, on peut être en soi-même sans force, et pour autant être connecté avec la force de Dieu. Et ça n'empêche pas ça. Non seulement ça n'empêche pas Dieu d'agir, mais ça favorise son action. Parfois, c'est notre suffisance, notre assurance en nous-mêmes, tellement sûr que les choses vont... Et puis, ça peut être un obstacle à l'action de Dieu. Quand au contraire, on est dans cette situation-là de faiblesse intérieure, de dépendance, d'humilité, parfois même d'humiliation, alors on ouvre le chemin à l'action de Dieu. Et c'est ce que Paul nous apprend sur la réalité de la force qui doit nous animer. Cette force-là, eh bien, elle est parfois, eh bien, elle passe par des temps où on doit même plus y croire. Paul commence son épître aux Corinthiens en disant, vous savez, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, les forces naturelles. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Tiens, est-ce que Paul a eu un coup de faiblesse dans sa foi? Non. Et ces gens qui l'entouraient faisaient qu'il ne voyait pas d'issue. Et il acceptait même l'issue négative, parce que le regard de Paul n'était pas fixé sur l'exaucement, sur la situation, mais son regard allait beaucoup plus loin. Vous savez ce qui nous pénalise parfois? C'est que nous, on attend des bénédictions terrestres immédiates, y compris des guérisons physiques, alors que notre espérance est éternelle. Et évidemment, personne ne veut souffrir, tout le monde veut être guéri, tout le monde veut trouver des solutions positives ici et maintenant. Et Dieu agit dans ce sens aussi. Mais notre regard ne s'arrête pas à notre temps terrestre, aux réalités que nous traversons. Notre regard va au-delà. Et Paul explique que eh bien voilà, qu'il reste avec eux, avec les chrétiens dont il a la charge, ou qu'il parte avec le Seigneur. Il dit son attente, le meilleur pour lui, c'est d'être avec le Seigneur. Il n'attendait pas de réponse immédiate à ses besoins, parce que son regard dépassait le temps présent et se portait vers l'éternité. Et parfois, on a besoin que notre regard aille au-delà du temps dans lequel nous sommes. Quand quelqu'un n'est pas guéri physiquement sur la terre comme nous le souhaitons, comme Dieu peut guérir, et pour autant, il y a des situations dans lesquelles on ne voit pas de guérison. Ce qui fait notre consolation, c'est que c'est l'espérance qui nous anime. C'est qu'un jour, au jour de la résurrection, le corps sera guéri. Il n'y a plus de mal. Ceux qui nous quittent aujourd'hui dans la souffrance, connaissent une libération à travers la mort, parce qu'ils goûtent au repos de Dieu et à la vie avec Dieu. Ça n'est pas une façon de nous décourager pour dire, dans ce cas, alors, résignons-nous. Non, c'est juste pour dire, il y a une situation dans laquelle Dieu guérit, et on va continuer à prier pour que Dieu guérisse, parce que c'est le signe de son royaume. Et puis, manifestement, on voit bien que dans cette situation, la guérison n'est pas là. Ce n'est pas de l'échec, Ce n'est pas du désintérêt de la part de Dieu. C'est qu'il nous invite à voir plus loin dans l'éternité qui est devant nous. Nos yeux doivent se nourrir de l'espérance de l'éternité, de l'espérance de la résurrection, de l'espérance du jour où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni rien de semblable, et où il habitera au milieu de son peuple. Nous serons avec lui pour l'éternité, il sera tout en tous. C'est notre espérance. Et c'est ça qui donne de la force pour traverser les moments d'aujourd'hui. Donc, quand Paul dit « nous regardions comme certains notre arrêt de mort », ce n'est pas de l'échec, c'est que simplement, il admettait que la mort pouvait faire partie de son parcours, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc il est dans l'espérance et en même temps, il est dans la réalité dans du temps d'aujourd'hui. Donc des fois, il faut faire le deuil de sa propre force. Admettre que nous sommes sans force devant Dieu. Et à ce moment-là, s'ouvrir à ce que Dieu veut nous donner comme ressource et comme issue positive. En terminant, il est dit que ceux qui trouvent leur force en Dieu et non pas en eux-mêmes, quand ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en une oasis. Et cette force-là, elle se trouve, elle se puise dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration de son nom. Ce que je veux noter sur cette notion d'oasis, c'est que dans la marche normale, l'oasis, c'est une étape. On marche dans le désert, et puis on va vers l'oasis, on s'arrête et on repart dans le désert. Ça, c'est la logique. Ici, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ici, il s'agit de faire du désert une oasis. Pas une oasis qu'on va quitter pour retrouver le désert, mais une oasis dans laquelle on va demeurer. Même si l'environnement reste un lieu de pleurs, un lieu de difficultés. Et c'est ça le miracle de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est que ça n'est pas dans le changement de nos circonstances extérieures qu'on va trouver l'oasis, mais c'est au sein de la vallée de Baca qui devient une oasis, un lieu où la présence de Dieu vient avec force et avec plénitude. Vous dites, comment on peut vivre cela ? Oh, vous l'avez tous vécu, cela. Quand, même si un exaucement n'est pas encore venu, même si une situation n'a pas encore été changée, pour autant, vivre la présence de Dieu comme source de sécurité, source de repos, source de plénitude, même au sein de la vallée des pleurs. C'est ça, l'oasis. C'est ce que Paul explique, par exemple, dans sa façon de gérer les biens matériels. Il dit, on connaît bien ce texte, « J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Là, c'est sur le plan matériel. Ça, c'est une oasis. Quand on est dans le besoin et qu'on est dans l'attente que Dieu intervienne, mais que notre équilibre intérieur, notre plénitude intérieure n'est pas déterminé par l'exaucement, ni même par l'urgence, même s'il y a urgence. Mais quand notre vie intérieure est déterminée par la confiance en Dieu, et donc le repos en Dieu. Et c'est ça qui fait une oasis. L'épreuve peut être là, matérielle, physique, ou d'une autre nature. Et pour autant, au sein de cette épreuve, il y a un lieu de repos, il y a un lieu de source, il y a un lieu de plénitude. Il y a un lieu de rafraîchissement parce que la relation avec Dieu transforme cette vallée des pleurs en une oasis. Et je crois que c'est ça que Dieu veut nous apprendre au quotidien. C'est rien de nouveau ce matin. Hein. C'est pas des choses... Non, c'est le quotidien de notre marche. Et ma prière, c'est que quel que soit le désert ou la vallée des pleurs que vous traversez, alors chacun a une expérience différente et personnel, mais en tout cas respectable. C'est-à-dire, nos vies, on ne compare pas les vallées des pleurs des uns ou des autres. L'important, c'est que là où nous sommes, soit que nous sommes confrontés, Dieu nous aide à transformer cette situation par la force qu'on trouve en lui, par l'abandon en sa présence. Et qu'au sein de cette situation, il y ait un lieu, il y ait un temps de repos, un temps de rafraîchissement, un temps de victoire. Et c'est ça qui fait la marque de ceux qui marchent avec Dieu. Heureux les hommes, femmes, dont la force est en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que, eh bien, des fois, on ne sait pas trop comment, quelle direction prendre. La direction ici qui nous est indiquée, c'est celle de la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu nous révèle sa volonté. Alors, même dans cette expression, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, littéralement en hébreu, c'est « ils trouvent un chemin pour le roi ». Un chemin, c'est une expression qui désigne une route que prend le roi pour arriver à sa destination. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, nous accueillons sa royauté, nous accueillons sa majesté, nous accueillons son règne. Et à partir de là, alors tout ce qui est en nous est marqué par les effets de la vallée des pleurs, c'est-à-dire la tristesse, parfois l'accablement, parfois la lourdeur, parfois la peur. Tout cela est transformé par sa présence. Parce que le roi vient. Nous trouvons notre force en lui. Et à ce moment-là, alors, la plénitude de sa présence vient nous combler. Parce que nous sommes dans sa maison. La vallée des pleurs peut devenir le lieu où nous habitons dans sa maison. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore ou ils te loueront à jamais. Et la louange reste la clé pour faire de nos vallées des pleurs un lieu de sa présence, un lieu d'oasis, un lieu de repos, un lieu de détente. C'est la promesse de Dieu. Personne ne peut l'accomplir par sa propre force, mais Dieu peut nous donner la force de vivre cela. Vous croyez cela ? C'est vrai pour la situation que nous traversons au niveau de notre pays, mais c'est vrai pour nos situations individuelles dans lesquelles Dieu promet un lieu de rafraîchissement et une oasis. C'est ma prière ce matin. On va terminer par là. Et on va se tourner vers Dieu. On va recevoir de sa force. Amen. Et parfois, il peut y avoir des questions. On dit, oui, bon, mais ma vallée à moi, elle est tellement spéciale. Tellement unique, si tu savais, si jamais cette pensée venait là un peu là, dans notre tête, s'il vous plaît, ne la laissez pas s'installer. Ta vallée de Baca peut devenir une oasis. Ma vallée de Baca peut devenir une oasis. Ma vallée de Baca va devenir une oasis. Amen. Et par vallée de Baca, vous mettez ce qui vous concerne, ce qui vous préoccupe, ce qui vous touche, ce qui est eh bien, cette vallée-là. Ce matin, par la présence de Dieu, et au quotidien, elle peut devenir une oasis. Est-ce qu'on peut se tenir debout devant Dieu un instant ? Seigneur, nous sommes devant toi et tu sais que parfois nous sommes sans force. Parfois nous avons trop de force en nous-mêmes et nous t'empêchons d'agir. Parfois nous sommes sans force et c'est là justement que tu veux agir. Je veux m'associer, Seigneur, avec tous ceux qui sont sans force ce matin en eux-mêmes. Tous ceux qui sont épuisés parfois dans leur prière peut-être, dans leur patience, dans leur persévérance ou dans leur espérance et qui ne trouvent plus de ressources en eux-mêmes. Seigneur, je veux prier avec eux. On s'associe, Seigneur, pour que dans ce moment, la force que tu es, que tu représentes, la présence qui vient de toi, la sécurité, la protection, le réconfort, tout cela descende dans nos cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu viens briser tout ce qui est en nous, c'est construit comme réserve, comme raisonnement, comme blocage, comme protection par rapport aux souffrances, aux épreuves, aux vallées des pleurs. Seigneur, tu viens briser cela pour créer en nous l'ouverture, la foi, que notre cœur s'ouvre à toi. Seigneur, tu nous as invités, tous ceux qui étaient fatigués et chargés, à venir à toi. Nous venons à toi ce matin, Seigneur. Nos cœurs se tournent vers toi. Quelle que soit notre vallée, quel que soit notre défi, nous nous tournons vers toi en tant que nation, en tant qu'église pour notre nation, en tant que croyant, en tant que famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que professionnel. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence et là nous célébrons ton nom. Nous trouvons la force en toi, dans la célébration de qui tu es. Nous avons chanté ton règne, nous avons chanté ta majesté, nous avons chanté ton autorité, nous avons chanté, Seigneur, que à jamais tu règnes. Nous avons chanté la suffisance de ta grâce, du sang de l'agneau pour nos vies. Il n'y a aucune situation, Seigneur, pour laquelle tu n'es pourvu en donnant ton Fils. Aucune situation tu ne sois conscient et dont tu restes étranger. Mais Seigneur, tu viens dans chacune de nos situations et nous louons ton nom pour cela. Amen. Et nous recevons, je prie pour que la force maintenant descende dans nos cœurs, au sein de notre impuissance, de nos craintes. Seigneur, viens communiquer la force de nous tourner vers toi, la force de nous ouvrir à toi maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Associez-vous à ma prière, vous qui êtes concernés, qui avez besoin de sa force ce matin pour puiser un élan nouveau et pour transformer votre univers, transformer votre être intérieur, mais votre environnement aussi, par la présence de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Seigneur, que ta force et ta puissance agissent ce matin par ton esprit, en nous et au milieu de nous, en nous, dans nos familles, en nous, dans nos lieux de travail, en nous, dans notre nation, au nom de Jésus. Alléluia. Élevons son nom, glorifions, en continuant dans ce climat de proclamation de son règne, de son autorité. Oui, tu règnes, oui, tu es digne d'être exalté, d'être célébré. Alléluia, 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 alléluia. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore, ils te loueront à jamais, Seigneur. Et nous disons la gloire de ton nom, la gloire de ton règne. Alléluia, nous célébrons la grandeur de ton salut. Ce matin, tu sauves au milieu de nous, Seigneur. Tu étends ta main d'en haut, tu nous retires des grandes eaux et tu nous amènes sur le rocher que nous ne pouvions atteindre au nom de Jésus. Amen. Recevez-la et vraiment, c'est que cette force descend dans vos cœurs et bénissez Dieu dans la foi. Même timidement, mais bénissez Dieu. Bénissez, gloire, 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 gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Sauvé au moment de la conversion, mais sauvé de toute situation, de toute vallée des pleurs. Confesse de ta bouche, proclame, célèbre, bénis, adore, élève. Et le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Merci pour les oasis que tu prépares, Seigneur. Je veux proclamer dans chacune des situations qui se sont présentées un oasis particulier, un lieu de repos, un lieu de plénitude, un lieu de grâce qui amène la détente physique, morale, spirituelle au nom de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'oasis, c'est le lieu du repos, c'est le lieu de la paix, le lieu de la détente et le lieu de la grâce. Alors on peut adorer son nom, on peut le bénir. Alléluia. Et pendant qu'on le bénit, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il y a des vallées de Baca qui sont éclairées, qui sont dans l'atmosphère comme déchirées par la lumière de Dieu, par l'abondance de Dieu, qui deviennent des lieux d'oasis au nom de Jésus. Amen. Recevez, 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 recevez. Encore, encore, simplement, avec reconnaissance, avec action de grâce. Avec confiance, Seigneur, merci. Ne repartez pas de ce lieu en étant accablé, en étant fatigué, chargé, en étant dans la crainte. Recevez, recevez le réconfort, l'assurance que l'oasis est pour vous. Amen. Merci, Seigneur, pour les oasis. Merci pour les lieux de repos. Alléluia. Que ce jour soit un jour de victoire, un jour de délivrance, Seigneur, parce que tu nous fais goûter à ton repos, et tu nous fais entrer dans l'oasis que tu as préparé pour nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous gardez ce que vous avez reçu. Si vous découvrez le Seigneur pour la première fois, si vous n'êtes pas habitué à tout cela, croyez au repos, à la paix que Dieu veut vous donner. Croyez à l'amour que le Seigneur veut manifester dans votre cœur. Croyez à la force qu'il veut vous donner pour affronter la vie par sa présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Adorons quelques instants encore. Adorons son nom. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'assurance de ta présence. Merci pour l'assurance de ton écoute, l'assurance de ton amour, Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia, c'est le temps de marcher sur nos craintes, c'est le temps de quitter les manteaux qui nous accablaient, c'est le temps de laisser les pensées qui nous arrêtent, de surmonter les obstacles qui nous freinent et de courir vers le Seigneur. Seigneur, merci, J'entre dans le lieu du repos. J'entre dans ta présence. J'entre dans la célébration de ton nom. Je célèbre et j'acclame ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Pas pour une fois seulement, un dimanche matin, mais au quotidien, cet après-midi, demain, après-demain, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Que les corps soient renouvelés. Que les âmes soient restaurées. Que les esprits soient vivifiés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour sa gloire. Nous bénissons tous ceux qui sont retenus. Tous ceux qui sont restés à la maison pour des raisons de santé ou de fragilité. Nous les couvrons de ta grâce. Nous couvrons nos bien-aimés, nos familles, tous ceux que nous représentons. Nous les couvrons de ta grâce. Et nous appelons l'oasis dans leur vie aussi. Nous appelons le réconfort, ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta maison, Seigneur, c'est là où nous t'invoquons. C'est pas ce lieu seulement, mais c'est dans nos lieux de travail, nos lieux de vie, nos lieux d'habitation où tu es célébré, où tu es acclamé. Alors dans ta maison, Seigneur, tes enfants trouvent le repos et le rafraîchissement dont ils ont besoin. Et nous te louons pour cela, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ensemble comme le Dieu qui transforme nos vallées des pleurs en oasis? Alléluia! Gloire, 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 gloire au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 alléluia.